France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'aérotrain, l'ex-train du futur. C'est l'histoire d'un train sans roue, plus proche de l'avion que de la loco. Un engin qui se déplace sur des coussins d'air, équipé d'une hélice d'avion qui parvient à lui faire atteindre des records de vitesse sur un rail central. Dit comme ça, ça fait très science-fiction. Cette technologie est pourtant le fruit du travail d'un ingénieur remarquable, Jean Bertin, polytechnicien, diplômé de l'École nationale supérieure d'aéronautique. Georges Pompidou, alors Premier ministre, à l'affût de tout ce qui est moderne, est conquis par ce projet. La France décide alors de soutenir le développement de cet aérotrain à grand renfort de moyens pour en faire une vitrine de la réussite française à l'international. Et pourtant, aujourd'hui, l'aérotrain n'existe pas, mort-né, parce que rien ne s'est passé comme prévu. Il ne reste de cette chimère qu'un bout de ce rayon béton, quelques kilomètres le long de la Nationale 20 entre Paris et Orléans, autrement dit un vestige, qui a au moins le mérite de casser la monotonie de cette route raide comme une lance qui traverse très plat pays qu'est la Beauce. Notre invité aujourd'hui, Patricia Pérennes, économiste dans le secteur du transport ferroviaire pour le cabinet de conseil Transmission. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Marjolaine Corr, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Denante, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Il faudra bien que les Français s'habituent à savoir circuler, de façon que prendre l'air ne soit pas simplement respirer le pot d'échappement du titre qui vous précède sur une route.
Je crois que le transport individuel avec chacun sa voiture deviendra de plus en plus difficile. Que pratiquement, il faudra des transports en commun, soit aériens, soit souterrains. Mais je crois que si on veut régler le problème de la circulation automobile en surface, il faudra absolument prendre des mesures graves de restriction pour ceux qui ne font pas les transports en commun.
La guerre s'est définitivement éloignée du quotidien des Français. Avec les années 60, vient l'euphorie d'une vie plus facile. Celle des premières machines qui libèrent les femmes des tâches ménagères, des voitures qui assurent une plus grande liberté. Mais le revers, ce sont ces rues encombrées, ces bouchons à la sortie des villes, et cette air de plus en plus pollué qui aujourd'hui d'ailleurs nous fait payer la note. Malgré la folie pompidolienne du progrès technologique à tout prix, déjà à l'époque il y a ce questionnement quand même. Comment éviter la saturation des routes? À Paris, il existe bien sûr un métro, mais la voiture est en train de supplanter les trams un peu partout en France. Alors, des ingénieurs et diverses sociétés se mettent à travailler sur la question. Des projets de métro suspendus ou de turbo-train sont ainsi étudiés. Le train dans les années 60 roule au mieux à 140 km/h. Les longues distances prennent facilement une journée entière de trajet. Mais on est dans ces années où le pétrole n'a pas connu de choc, alors on peut tout envisager. C'est ainsi qu'un ingénieur habitué à travailler pour l'aéronautique se met à imaginer un train sans roue.
Paris-Lyon en 1h10, voilà ce que nous promet l'ingénieur Bertin grâce à son aérotrain dont le prototype à l'échelle 1 sur 2 vient de faire des essais très remarqués. Pas de roue, à califourchon sur un rail de béton, il glisse sur un coussin d'air. Propulsion par moteur à hélice, mais un réacteur pourrait permettre au fuselage d'emporter facilement une centaine de voyageurs à 400 km à l'heure. Ni train, ni avion, mais les deux à la fois, c'est peut-être la formule de l'avenir.
Un train sans roue, au moins deux fois plus rapide que les trains classiques, l'ingénieur Jean Bertin en est certain. Cet aérotrain, ce nom lui va ravir, va révolutionner le monde des transports. Et ce n'est pas la première fois que Bertin fait parler de lui. Dans les années 50, il travaille pour la Snecma, la grande société de construction de moteurs d'avion. Alors qu'on entre dans l'ère des engins à réaction, l'ingénieur invente l'inverseur de poussée qui permet de considérablement réduire la distance de freinage des avions. Sauf que la France ne se montre pas très intéressée par son invention. Non, c'est une société américaine qui acquiert les brevets du système. Piqué au vif, Bertin décide de quitter la Snecma en 1956 pour fonder sa propre société de recherche. désormais, il inventera à son compte.
Non mais...
Et la société Bertin trouve vite sa place sur le marché. Dès les années 60, elle compte près de 500 salariés, dont 125 ingénieurs, qui imaginent des solutions pour les industriels. Ils inventent à tour de bras, comme le dissipeur de brouillard sur les pistes d'aéroport, par exemple, ou l'ouverture facile de boîtes de conserve. Mais surtout, en 1957, avec son ingénieur Paul Guen, Jean Bertin redécouvre le phénomène de coussin d'air. Alors, le principe, eh bien, il est possible de déplacer des véhicules grâce à des compresseurs d'air placés sous la machine, à condition de l'entourer d'une jupe qui empêche l'air de s'échapper. C'est cette découverte qui conduit Jean Bertin à imaginer un prototype de train aéroglisseur qui flotterait quelques centimètres au-dessus du sol et, éliminant les frottements gênants, pourrait atteindre des vitesses incroyables. Le train, mais aussi un véhicule terrestre et un aviplane pour la mer sont alors imaginés par celui qu'on appelle le Léonard de Vinci des temps modernes. En 1963, il présente son aérotrain à Georges Pompidou. Suivent les instructions de l'ingénieur, et en une pichenette, le Premier ministre fait filer sur 10 mètres une petite maquette d'1,40 m de long. Et il est conquis. L'aérotrain est peut-être bien l'avenir du transport. Alors, le gouvernement est sommé par son chef de débloquer un crédit de 3 millions de francs pour expérimenter ce véhicule tout droit sorti du futur. 3 ans plus tard, le premier prototype réalise ses premiers essais.
Eh bien voilà, nous venons de voir passer sous nos yeux à grande vitesse cet appareil qui sera sans doute un appareil très répandu demain et que vous venez de voir pour la première fois. Nous souhaitons bonne et longue route à l'aérotrain et nous allons quitter en hélicoptère le sud-ouest de la région parisienne. À bientôt.
En ce jour de mars 66, la presse venue en nombre pour ce premier test en public se montre dithyrambique. Elle parle d'un avion retenu au sol ou d'un engin brillant, 75% avion, 25% train. 3 ans après la première démonstration de sa maquette, l'équipe d'ingénieurs a réussi son coup. En grande banlieue parisienne, entre Gomez-la-Ville et Limours, un rail de béton de 6 km de long est aménagé sur une voie ferrée désaffectée. Le prototype, qui mesure 10 mètres de long, capable de transporter son pilote, un ingénieur test et 4 passagers filent sur la structure. On le pose sur un muret central qui le guide. À l'aide d'un moteur d'avion de 250 chevaux qui actionne une hélice de 2 mètres de diamètre, l'aérotrain peut atteindre la moitié de sa vitesse définitive, 200 km/h. Bertin dira « La roue, c'est un mécanisme périmé ». Déjà, on en parle comme du véhicule de l'an 2000. Et l'idée fait son chemin de le développer là où les lignes de chemin de fer commencent à saturer. Le délégué interministériel qui suit le dossier de près, Olivier Guichard, estime que l'aérotrain constituerait un échelon intermédiaire parfait entre le train et l'avion pour les liaisons à moyenne distance. Le développement de cette nouvelle technologie se fait alors sous le regard attentif de la SNCF, partie prenante du projet depuis le début. Mais si elle se montre intéressée par l'aérotrain, cela ne l'empêche pas, de son côté, d'étudier la piste des turbines à gaz en série, et ce, dès 1965. Un procédé qui permettrait à ces trains de gagner de la vitesse. Une réunion est organisée à la préfecture du Rhône. Les préfets et les maires des villes de Lyon, Saint-Étienne et Grenoble se penchent sur une idée un peu folle, présenter l'aérotrain pour les Jeux Olympiques de 1968. Jean Bertin promet de relier Lyon à Grenoble en 20 minutes et Saint-Étienne en 14 minutes. Quelle fabuleuse vitrine ce serait de pouvoir présenter au monde entier cet engin du futur dès 1968. Mais les délais sont trop courts, car il reste encore beaucoup d'essais à mener pour que l'aérotrain soit prêt à transporter des passagers. Mais le gouvernement est tout à fait disposé à soutenir Bertin, comme l'annonce son ministre de l'Équipement, Edgar Pisani, en décembre 66.
Techniquement, les essais qui ont été réalisés à petite échelle sont satisfaisants. Nous allons maintenant réaliser des essais vraie grandeur. Reste à définir le site dans lequel cette expérimentation aura lieu. Je peux dire aujourd'hui qu'elle aura lieu dans un site tel que si les expériences sont concluantes, les investissements qui auront été réalisés seront utilisables par une ligne commerciale. Nous comptons beaucoup sur le succès de cette expérience, D'abord parce qu'elle soulignerait les progrès, la qualité de la technologie française. Ensuite, parce qu'elle apporterait sans doute, même sûrement, des solutions à des problèmes de transport qui nous angoissent, comme chacun le sait.
C'est donc parti pour un déploiement grandeur nature. Le ministre l'a dit, il faut bâtir cette portion de ligne sur un trajet qui sera exploitable commercialement par la suite. Alors le tracé Lyon-Grenoble est oublié. Cette fois, on envisage une ligne qui rapprocherait une grande ville de Paris. De ce point de vue, Orléans semble être le cobaye idéal. Une liaison d'aérotrain en ferait la nouvelle banlieue de la capitale en la mettant à 20 minutes de distance. En attendant, à l'ouest de Paris, dans la fraîcheur du mois de décembre 67, une foule d'officiels et de journalistes se retrouvent autour de la piste de Gomez-la-Ville. Trois ministres ont même fait le déplacement. On leur a promis un nouvel exploit. Mais Jean Bertin est catastrophé. Un brouillard à couper au couteau empêche l'appareil de battre son propre record de vitesse. Alors les invités s'agacent et ont fait mine de repartir. Et Bertin supplie « Attendez, attendez, il y aura une fenêtre météo à midi et demi. » Alors il commande saucisses et Beaujolais pour retenir tout son monde. Et finalement, le record est battu sous les yeux du journal de 13h, en direct s'il vous plaît, et au grand soulagement de son inventeur.
Il vient de déclencher maintenant ses parachutes. Voyez-vous, les applaudissements saluent le record de vitesse. On annonce 365 km à l'heure, mais il s'agit d'une vitesse badin, d'une vitesse par rapport au vent. Il faudra faire une petite opération, soustraire la vitesse du vent pour savoir quelle était la vitesse réelle. Mais on peut dire, monsieur Bertin, qu'elle est supérieure à 350 km à l'heure.
Oui, si vous voulez, pour être franc, le but était 350, nous avons fait, bien entendu, une répétition avant que nous avons fait 345.
Eh bien voilà, record absolument battu. À vous les studios.
Avec son inimitable accent bourguignon, Jean Bertin inlassablement fait la promotion de son véhicule du futur. Et l'annonce tombe. Avant Noël, le gouvernement débloquera les sommes nécessaires pour poursuivre les essais grandeur nature. Ils commenceront en juin 69 au nord d'Orléans, c'est maintenant officiel. Mais enfin, une telle piste d'essai, un rail de béton posé sur des pylônes en hauteur pour éviter les passages à niveau et le risque d'obstacles sur la voie, cela coûte 1 million de francs par kilomètre. Bien moins cher, cela dit, que celui des chemins de fer. Et avec un autre avantage, placé sur des pylônes, le rail permet de ne pas avoir à préempter des terres. Comme pour les pylônes électriques, il peut traverser les champs ou les jardins sans que les propriétaires terriens n'aient leur mot à dire. Ce qui est très pratique. 45 millions de francs sont nécessaires pour construire le véhicule grandeur nature, de 26 mètres de long, le rail, les plateformes de retournement et, éventuellement, indemniser les habitants impactés. C'est une somme pour l'époque, mais qui montre à quel point Georges Pompidou et son gouvernement y croient. De son côté, la SNCF continue de plancher sur ses turbines à gaz pour améliorer ses trains. Dès 1967, deux premiers prototypes des ancêtres du TGV, les turbotrains, commencent à arpenter des lignes spécialement construites pour les tests. Et déjà, ils atteignent 300 km/h. Les nouveaux modèles sont prometteurs. Pendant ce temps, à Orléans, les travaux prennent du retard. Et cela à cause des événements de mai 68. Comme un premier rouage qui se grippe. Oh, oui, je veux jouer
crever qu'un danseur. Oh, il fait lourd. Et grande, grande nuit blanche. Et grande, grande nuit d'orage. Le tonnerre gronde, mais y'a pas d'éclair. Écoute la voix du vent. Écoute, on va changer de lit, changer d'amour, changer de vie, changer de jour.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'aérotrain.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Actuellement, il y a une voie de 20 km qui a été construite. À votre avis, quand Orléans sera-t-il relié à Paris?
Alors là, vous posez une question qui dépend du budget et le moment n'est peut-être pas venu de parler de notre budget qui est relativement serré. Mais si on veut que cette technique française conquiert le monde, comme c'est possible, il faudra évidemment décider une ligne commerciale avant peu et nous espérons qu'on décidera Orléans-Paris.
Alors rêvons un petit peu, en supposant que cette ligne soit construite, nous habitons Orléans, nous travaillons à Paris, nous faisons le trajet en combien de temps?
20 à 22 minutes.
20 à 22 minutes. Yves Morousi, vous voyez que les distances sont assez raccourcies, on ira plus vite à Orléans dans quelques années qu'à la porte de Vincennes de la Maison de la Radio.
La piste est donc en service depuis quelques mois maintenant. Un long serpent de béton de 18 km en bordure de la forêt de Cercotte. Les habitants des environs voient alors filer, 8 mètres au-dessus de leur tête, un train sans roue, on va finir par le savoir, rutilant et pourvu à l'arrière d'une énorme hélice qui le propulse et qui lui fait battre des records jusqu'à 422 km/h. Performance jamais homologuée dans la catégorie des trains, mais en aéronautique. Eh oui, comme un avion sans aile. En tout cas, à l'étranger, on scrute le travail des Français de très près. De nombreuses délégations venues de Suède, des Émirats, d'Amérique du Sud, de Montréal ou des États-Unis, entre autres, défilent à Orléans. Tout le monde veut prendre place à bord de ce bolide capable de transporter 80 passagers et qui, sans un coup, file au-dessus des champs de blé. Bertin a de quoi être fier. Il a bien 3 années d'avance sur tous ses concurrents et il en est sûr. Bientôt, on croisera des aérotrains partout dans le monde.
Les Américains, décidément, apprécient toujours autant le confort français. C'est fait, ils voyageront sur le coussin d'air de l'ingénieur Bertin.
La société américaine Roar Corporation vient de confirmer qu'elle avait conclu un accord avec la société française, l'aérotrain de Bertin et compagnie, pour la construction et la distribution aux États-Unis du fameux train français sur coussin d'air.
L'Aeroglide, car tel sera le nom américain de notre aérotrain, desservira dans un premier temps la région et la baie de San Francisco.
Notre aérotrain, dit le journaliste, c'est une fierté française. Oui, mais même si l'intérêt grandit un peu partout, il faut des accords d'études et il faut encore régler certains problèmes techniques. Le premier reste à ce stade, celui du bruit. Autant il est possible d'utiliser une hélice en rase campagne, autant à l'arrivée en ville, il faudra adopter une autre méthode, plus silencieuse. Au fil des essais déjà, le recours à une hélice carénée a réduit les nuisances sonores. Mais pour les entrées en agglomération, on envisage des roues pneumatiques à l'horizontale, pincées sur le rail central pour se substituer à l'hélice. Plus les solutions s'affinent, plus on imagine de nouveaux usages. Et si l'aérotrain permettait de relier les aéroports au centre des villes ? Orly serait alors à 6 minutes de Denfert-Rochereau. Il pourrait devenir une sorte de super métro qui roulerait, écoutez bien, à 180 km/h en zone urbaine.
Plusieurs centaines de personnes hier ont raté leur avion à Orly, encore une fois, à cause des embouteillages sur l'autoroute du Sud. Les voyageurs, les compagnies aériennes demandent des liaisons directes entre Paris et les aéroports. Les pouvoirs publics étudient la question depuis un certain temps. Plusieurs projets ont été envisagés. Le chemin de fer, un métro express ou encore, solution moderne, l'aérotrain. Le président de la République, M. Pompidou, avait précisément demandé en décembre dernier que lui soit communiqué rapidement un dossier sur une liaison assurée par cet aérotrain. La réponse, elle est peut-être aujourd'hui dans la constitution d'un groupement qui réunit la société de l'aérotrain et sept grands groupes financiers.
Certes, un groupement constitué d'importantes sociétés voit le jour pour créer un aérotrain suburbain, sorte de super métro, mais l'air de rien. Alors qu'il était envisagé au départ comme une solution sur les distances de 200 à 500 km, son usage se décale. Désormais, on demande aux ingénieurs d'étudier des solutions pour de courts trajets, en zone urbaine, qui ne nécessitent pas du tout les mêmes capacités. Ce petit pas de côté, en fait, présage le pire. Mais pris dans le tourbillon des sollicitations françaises et internationales, Jean Bertin et ses équipes ne perçoivent pas encore le danger. Et pourtant, au même moment, en 1970, la SNCF met en service ses 10 premiers turbotrains entre Paris et Cherbourg. Le succès commercial est immédiat. À ce stade, la question du coût de l'aérotrain revient souvent dans les débats. Et pour cause, il n'existe aucun autre mode de transport comparable. Alors, comment savoir ce qu'il coûtera vraiment ? Certes, on peut calculer le coût d'un véhicule, du rail de béton, mais qu'en sera-t-il des expropriations ? Inévitables en zone urbaine. Sans parler du mécontentement si l'on fait passer des pylônes au-dessus des maisons et dans les jardins potagers. Mais la société de l'aérotrain l'assure, le tarif d'un ticket serait à peine supérieur à celui d'un ticket de train de deuxième classe. Bien, maintenant il faut s'activer si l'on ne veut pas que la France perde son avance. Car le journal Les Échos lance un pavé dans la mare en titrant « Mais qu'attend-on pour le mettre en exploitation réelle ?» justifiant ainsi qu'une exploitation commerciale, mieux que toutes les expérimentations, favoriserait l'exportation vers l'étranger. Léon Kaplan, président de la Société d'études de l'aérotrain, commence lui aussi à taper du pied.
Le monde entier s'intéresse à ce que nous avons fait. Les Anglais ont un gros programme, les Américains aussi. Il est certain que maintenant, il faut que nous ayons une ligne fréquentée par le public, par des gens qui payent leurs billets, que ces gens nous disent leur avis. Cette ligne sera bonne, cette ligne servira quelque chose d'utile et il faut qu'elle démarre l'année prochaine. Autrement, l'avance de 3 ans que nous avons, elle va se gaspiller, s'éroder et un jour, des gens qui nous auront en principe copié sortiront eux des lignes et des séries et nous resterons, une fois de plus, regarder ce que l'étranger aura fait à partir de nos concepts à nous.
Mais pourquoi la ligne Orléans-Paris ne semble-t-elle plus être une priorité pour les autorités ? Pourtant, l'aérotrain fait le plein de passagers cobayes, ravis de leur expérience. C'est qu'en réalité, le gouvernement est confronté à plusieurs obstacles. D'un côté, outre le coût imposant de cette ligne, relier le centre d'Orléans à la gare Montparnasse serait long et fastidieux, notamment dans les entrées en ville. Si le but est d'en faire une vitrine pour l'international, la lenteur des travaux n'est pas compatible avec cet objectif. Et puis d'un autre côté, le gouvernement n'est pas le seul à décider. Il faut que la SNCF, partie prenante depuis le début, donne son accord. Et elle ne semble pas spécialement pressée de tester commercialement l'hypothèse de l'aérotrain. En attendant, plusieurs projets sont à l'étude à l'international. Du côté de l'Union européenne, notamment, un projet ambitieux prend forme.
Une victoire pour l'industrie française, l'aérotrain circulera peut-être bientôt entre Bruxelles et Genève, via Luxembourg, Strasbourg et Bâle. L'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe vient en effet d'adopter le projet d'une liaison européenne. Monsieur Adus, député du Bas-Rhin et rapporteur du projet devant l'Assemblée de Strasbourg, a dit à notre correspondant Hervé Plassard pourquoi l'aérotrain lui semblait le moyen de transport européen de l'avenir.
Je pense que c'est d'abord la grande vitesse qu'on peut atteindre. Autre avantage aussi par rapport même à l'avion, c'est que pour des distances relativement courtes, la durée du trajet serait au moins égale, peut-être même inférieure. Si vous prenez une ligne, je parle de celle que je connais le mieux, Paris-Strasbourg, compte tenu du temps qu'il faut pour aller à Orly d'une part, pour aller de Strasbourg à son aéroport, eh bien la perte de temps est énorme, ce qui n'existe pas dans l'aérotrain.
Tous ces projets, en tout cas, aident les ingénieurs à prendre leur mal en patience. Le comité interministériel, qui soutient l'aérotrain depuis le début, semble aussi étudier une piste sérieuse, une liaison entre les aéroports d'Orly et de Roissy, alors en construction. Cette ligne sera une superbe vitrine pour l'international. Mais il reste encore du fil à retordre avant de voir filer dans les airs un super métro, ou plutôt un aérotrain suburbain. À Gomez-la-Ville, en banlieue parisienne, une seconde ligne test est construite pour d'autres modèles, plus compacts, destinés à des déplacements à 180 km/h. Ces modèles-là sont conçus avec l'aide de la société grenobloise Merlin et Gérin, en charge de mettre au point un moteur linéaire, électrique, totalement silencieux et fonctionnant avec des pneumatiques qui pinceraient le rail central, histoire d'avoir une machine efficace, rapide et peu polluante. Mais cette solution oblige à construire un rail plus cher, puisqu'il devrait être dans un matériau conducteur. Et la société peine à valider son modèle, au point qu'après bien des tergiversations, Bertin décide de changer de prestataire. Décidément, ce moteur linéaire est à casse-tête. En attendant, car on attend tout le temps dans cette histoire, tout le monde est conscient que, tant qu'il n'y a aucune ligne opérationnelle en France, l'exportation du véhicule sera impossible. Et au fil des jours, l'enthousiasme du début semble s'émousser. Et puis d'autres solutions prennent forme, par ailleurs. Déjà, on parle plutôt d'un turbotrain au lieu d'un aérotrain pour relier Paris à Lyon. Reste qu'après avoir investi autant d'argent, il faut bien aller au bout de l'idée. Alors, après avoir évoqué la piste d'une liaison Orly-Roissy, voilà que le gouvernement sort de son chapeau un autre projet. Celui d'une ligne pour relier la ville nouvelle de Cergy-Pontoise au quartier des affaires de la Défense. Quand l'équipe de l'aérotrain apprend la nouvelle, elle est en train de fêter avec le maire de Los Angeles un test réussi l'après-midi même. Et les ingénieurs sont atterrés. Quoi, Cergy-La Défense? À coup sûr, c'est une décision politique. L'idée, effectivement, est de rendre plus attractive la ville nouvelle de Cergy, jusque-là boudée par les franciliens. Au micro de France Inter, Jean Bertin peine à cacher sa déception.
Nous attendions depuis longtemps qu'il y ait une ligne décidée, car il est évident que notre travail ne pouvait pas continuer s'il n'y avait pas la décision d'une ligne. En aucun cas, notre rôle était de choisir une ligne ou d'exprimer d'une manière trop nette une préférence. Il reste, bien entendu, qu'on a toujours, malgré tout, quelques petites préférences. Je pense un petit peu que, du point de vue du commerce international, comme je l'ai dit aux différents représentants du gouvernement et des organismes intéressés, que la ligne d'Orly-Roissy se présentait peut-être un petit peu mieux pour notre action extérieure. Je crois qu'aujourd'hui, il faut surtout être content qu'il y ait une décision prise.
Le projet, évalué à 317 millions de francs pour une ligne de 23 km, permettrait de relier Cergy à la Défense en 10 minutes. Mais la décision va provoquer des débats houleux dans la population. Cette manière de vouloir sauver à la fois la ville de Cergy où personne ne veut s'installer et le projet de l'aérotrain qui semble moins pertinent au fil du temps, c'est un peu l'alliance fatale. Et cela n'échappe pas aux habitants, qui ne comprennent pas le projet. Et enfin, quel intérêt aurait-il dans une ligne directe qui n'aurait aucun arrêt intermédiaire ? Tous les habitants des autres communes situées sur le tracé, notamment Nanterre et Maisons-Laffitte, vivraient le désagrément de la ligne sans pouvoir en bénéficier. Ça n'a aucun sens, d'autant qu'une ligne de train était déjà dans les tiroirs. Chez les élus locaux, il y a ceux qui se préoccupent des habitants et ceux qui choisissent plutôt de sauver une technologie nouvelle.
Nous sommes inquiets sur le plan de l'urbanisme parce que nous pensons que Cergy-Pontoise, qui est une ville nouvelle, risque de devenir, si elle est reliée par un moyen très rapide à la Défense, la ville dortoir de la Défense. Mais nous sommes inquiets également en ce qui concerne nos propres finances, car en effet, l'exploitation de cet aérotrain sera coûteuse. Il n'est pas évident qu'il puisse absorber le nombre de voyageurs qu'il est nécessaire d'absorber, et nous risquons peut-être à terme, et à moyen terme, de nous voir contraints de financer, en plus de l'aérotrain, une voie de chemin de fer classique. Nous ne voulons pas que les populations de la région payent la casse d'une opération qui est intéressante nationalement, mais qui l'est beaucoup moins pour la région parisienne.
Il vaut mieux l'aérotrain Cergy-Pontoise que de pas d'aérotrain du tout. La ligne qui lierait Cergy à la Défense, alors que la Défense est maintenant saturée au point de vue bureau, aurait pour but d'apporter à Cergy-Pontoise des emplois nouveaux, et par conséquent, c'est la raison pour laquelle j'y suis favorable.
Alors, pendant trois longues années, le projet a fait l'objet de plusieurs études. D'abord pour tester quatre tracés différents. Parmi eux, ceux qui traversent la forêt de Saint-Germain-en-Laye provoquent une levée de boucliers. Il faut ensuite parvenir à placer les rails dans l'entrelac des autoroutes et des tunnels du RER à l'entrée de la Défense. Mais enfin, malgré toutes ces difficultés, un accord est trouvé. Mais pendant ce temps, la SNCF, elle, poursuit ses avancées. Le 20 mars 1972, pour la première fois, le TGV file sur sa ligne d'essai à 314 km/h. C'est un record. On est encore loin des 422 de l'aérotrain, mais on s'en approche. Le projet Cergy Défense, lui, vit une débâcle. En octobre 1973, la société Le Moteur Linéaire, en charge de la mise au point du moteur, fait faillite. Heureusement, la société Jeumont-Schneider vole au secours de Bertin et in extremis reprend le contrat. Malgré les obstacles, le projet finit par prendre forme, une société voit le jour et enfin, en février 1974, le Conseil des ministres confirme le projet. Le chef du gouvernement, Pierre Messmer, au micro d'Interactualité, justifie son choix de le poursuivre malgré les difficultés.
La décision de l'aérotrain, vous le savez, a été prise par mon prédécesseur. Je n'ai fait que confirmer une décision qui a été prise.
Vous avez été assez critiqué, du reste, pour cette décision de l'aérotrain, enfin, pour avoir confirmé la décision de votre prédécesseur.
Oui, exactement. Si je n'avais pas confirmé, en réalité, il ne faut pas se faire d'illusions, c'était la mort de l'aérotrain. Et je crois que l'intérêt de la France et l'intérêt de la région parisienne est que l'aérotrain devienne une réalité.
Orly-Roissy n'était pas intéressant.
Je répète, c'est une décision qui avait été présentée à mon prédécesseur, qui, après l'avoir examiné très sérieusement, avait choisi Cergy Défense. À force de changer de décision, on finirait par tuer l'aérotrain.
Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort.
Le 2 avril 1974, en plein film du soir à la télé, la France apprend que son président, Georges Pompidou, vient de mourir. Sa disparition signe aussi celle des plus ardents défenseurs de l'aérotrain. Et la suite a de quoi inquiéter l'ingénieur Bertin. En quelques semaines à peine, les cartes sont rebattues. Le protocole de gestion de la ligne Cergy de la Défense est signé le 17 mai. Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. Et le 17 juillet, le nouveau gouvernement décide que la France n'a plus les moyens de financer ce projet. Les journaux titrent « Trop cher, l'aérotrain est sacrifié à la politique d'austérité ». Donc, fini l'aérotrain, rayé d'un coup de crayon. Le choc pour les ingénieurs est énorme. Parce que qui dit plus de projet dit plus d'argent. Jean Bertin est contraint de réduire la société à trois personnes. Une secrétaire, un technicien et lui-même. Les essais à Paris, comme à Orléans, s'arrêtent du jour au lendemain. Un an plus tard, en septembre 1975, Valéry Giscard d'Estaing annonce la construction de la première ligne de TGV Paris-Lyon. Le coup est rude. Quelques jours après, on apprend l'hospitalisation de Jean Bertin.
L'inventeur de l'aérotrain, l'ingénieur Bertin, vient de mourir à l'âge de 58 ans. Il s'est éteint à l'hôpital américain de Neuilly où il était hospitalisé à la suite d'une grave maladie. Au cours des 20 dernières années, à la tête d'une société qui portait son nom, l'ingénieur Bertin avait déposé quelque 3000 brevets d'invention allant des hydroglisseurs terrestres et maritimes jusqu'aux effeuilleuses d'artichauts en passant par les silencieux pour avions et le fameux système de dissipation du brouillard sur les aéroports.
Emporté en quelques mois, une fin aussi brutale que celle de l'aérotrain. Les journaux sont alors nombreux à rendre hommage à cet inventeur hors du commun, qui ne supportait pas d'entendre que la recherche en France était à la traîne. Il était fier de ses chercheurs et se plaignait du peu de soutien que leur accordent les autorités publiques. Pour quelques années encore, la société Bertin tentera de financer ses propres essais et de poursuivre l'aventure avec l'étranger. Sans succès. Les derniers essais de l'aérotrain auront lieu en 1978. Et comme un pied de nez, C'est en cette même année que le plus grand aéroglisseur entre en service dans le Pas-de-Calais. C'est l'Overboard, bateau sur coussin d'air, qui assure des liaisons rapides entre la France et le Royaume-Uni. Et si l'aérotrain n'a jamais été exploité, le coussin d'air a trouvé un usage avec ce bateau, donc, mais aussi avec certains chariots de manutention utilisés en usine ou à la poste pour le tri automatique des lettres convoyées sur tapis d'air. Des années plus tard, Robert Gallet, qui était ministre des Transports sous Pompidou, puis ministre de l'Équipement sous Giscard, se confiait sur cet épisode. C'était en 2003, au micro de Stéphane Goum.
Pompidou avait ce goût du modernisme. Par contre, on peut dire que le président Giscard était infiniment plus sensible à des notions comme celle de l'économie. Je dirais qu'il s'est montré tout de suite extraordinairement réservé dès sa prise de pouvoir pour cette affaire. Je dois ajouter que la SNCF, dès 1972, avait elle-même définitivement choisi le TGV, parce qu'ils ont commencé, contre d'ailleurs les instructions gouvernementales, à acheter les terrains pour faire la ligne TGV Paris-Lyon.
Le destin de l'aérotrain était sans doute scellé bien avant cette date fatidique de juillet 1974. Une nouvelle technologie, de nouvelles infrastructures, certes, mais trop d'investissements et d'incertitudes face à ce turbotrain devenu TGV. Même l'aérotrain lui-même n'existe plus, détruit dans un incendie volontaire en 1992. De cette machine, il ne reste que des larmes de métal fondu. Aujourd'hui, l'aérotrain, notre invitée Patricia Pérennes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste dans le secteur du transport ferroviaire pour le cabinet de conseil Transmission, avec une apostrophe après le S. Hein. Vous vivez à Bourges, je crois, vous vous déplacez quasi uniquement en train du fait de votre travail et vous côtoyez quasiment toutes les semaines la ligne de l'aérotrain hein, entre Orléans et Bourges. C'était pour l'anecdote. L'aérotrain n'aura donc jamais vu le jour. Mais finalement, il avait peut-être de bonnes raisons économiques à cela, hein, pas seulement politiques. D'ailleurs, les raisons économiques étaient-elles prégnantes ?
Oui, d'ailleurs, vous le dites un peu dans votre reportage. À un moment, il y a ce paradoxe-là. Est-ce que la ligne serait pas moins chère de faire un aérotrain parce que ça coûtera moins cher d'acheter du terrain dans la campagne, dans la plaine de la Beauce ? Mais c'est moins vrai, en fait, quand on rentre dans la zone urbaine. Et ça a été dit aussi, surtout quand on parlait de Cergy à la Défense. C'est bien plus compliqué, en fait, et coûteux, et pas accepté par les populations de mettre cette espèce de rail en l'air qui ne va pas desservir les populations. Et c'est vrai que c'était l'énorme force du TGV, c'est d'utiliser l'infrastructure ferroviaire normale pour s'intégrer dans les villes. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'SNCF l'a préféré, parce que devoir arriver, donc vous imaginez, vous parliez de Montparnasse depuis Orléans, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette espèce de ligne que, du coup, moi, comme vous l'avez dit, je vois très bien quand je fais Orléans-Paris très régulièrement, au milieu de la ville. Voilà. Et ça, c'est sûr qu'à la fois en termes de coûts et d'acceptabilité, par la population, ça paraissait très compliqué.
Mais même en milieu rural, enfin dans les campagnes, le TGV, on le voit, parfois, mais il passe souvent entre des talus. Là, qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer comme paysage ? Donc ce rail surélevé qu'on aurait vu partout, et de partout.
C'est ça, il y aurait ça. Alors, pour le TGV, quand même, je relativiserais, parce qu'on le dit à la fin de votre reportage, et surtout, on le voit aujourd'hui dans ce qu'on appelle le grand projet Sud-Ouest, donc pour des services Toulouse et Dax, il y a quand même des expropriations qui sont plus ou moins bien vécues par les populations,
oui,
et qui
bien.
Le sont de moins en moins.
Oui, j'entends bien, je vais parler du regard paysager.
Oui, sur le regard paysager, oui, je vous accorde que, sauf si comme Pompidou, on aime ce côté très moderne, la technique, évidemment, c'est plus haut, et en plus, c'était extrêmement bruyant. Donc oui, en termes de point de vue paysager, je partage tout à fait votre analyse.
Concernant maintenant la vitesse, alors le TGV, si je ne m'abuse, en exploitation commerciale, roule à 300 à l'heure, c'est ça ?
Oui, environ, bon. Ça, on peut dire 300, oui. Ouais. C'est une bonne...
Alors, là, ça aurait été 450 km/h, en termes de vitesse, ça aurait été fabuleux.
Alors, je ne sais pas si ça aurait été si fabuleux, parce que finalement, il y a des technologies aujourd'hui qui font du 450 km/h. Je pense au maglev qui se trouve à Shanghai. Mmh. Et au final, en fait, le coût que ça... Toujours, si on raisonne, moi je raisonne comme économiste, le coût que ça engendre de gagner ces kilomètres supplémentaires avec des raisons basiques, il faut plus d'énergie pour les frottements, finalement, ne trouve pas forcément une demande si facilement que ça. Et en tout cas, alors que la technologie est prête, que ce soit pour l'aérotrain ou pour donc le maglev dans d'autres pays, Bon, ça s'est pas répandu. Donc voilà, il n'y a pas que la France. Hein. C'est vraiment un constat général. Bon, est-ce que 300 km entre guillemets, ça ne suffit pas, étant donné en plus l'échelle de notre pays? Voilà, est-ce qu'on a besoin de faire 450 pour faire du Cergy la Défense? On peut quand même en douter.
Ah oui, bah, Cergy la Défense. Oui, tu entends bien. Moi, j'imaginais une ligne Paris-Lyon, Paris-Aix, Paris-Nantes, voyez, à 450 km/h. Oui. Ça aurait été quand même quelque chose de très appréciable.
Vraiment, par rapport à cette histoire de vitesse, il y a des théories économiques qui essayent de dire combien de minutes gagnées par rapport au salaire, etc., etc. Bon, globalement, il y a quand même un consensus sur le fait que au-delà de 300-350, ça coûte trop cher. Et pareil, on pourrait parler du Concorde pour être grand public, qui allait plus vite, et on voit bien que c'est pas des projets qui sont restés. Donc, la technologie ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une appétence, il faut qu'il y ait une demande. Et pour de vitesses comme ça, en dehors du transcontinental, quand on prend l'avion et quand on change carrément de continent. Et encore, hein, même pas pour le Paris-New York. Voilà, on arrive à des limites. Les gens ne sont pas prêts à mettre l'argent qu'il faudrait, entre guillemets, à acheter le billet aussi, assez cher pour ça, quoi.
En termes de sécurité également, bon, c'est vrai que le train est un moyen de transport très sûr, beaucoup plus que la voiture, la moto ou autre. Mais là, la sécurité était parfaite, impossible de dérailler.
Oui, alors aussi, c'est les collisions avec des tracteurs ou des choses qui pourraient être sur la voie qui n'arriveraient pas. Bon, après, il y avait quand même, et c'est un vrai enjeu de sécurité, s'il y a un problème et qu'il faut évacuer les gens, c'est plus compliqué sur un rail en hauteur que sur un train. Donc bon, je suis pas sûr que ça fasse partie de l'équation au moment où on prend une décision ou l'autre. Comme vous l'avez dit, le train, ça reste un mode de transport extrêmement sûr, et à partir du moment où des gens arrêtent de prendre la voiture pour prendre le train, c'est déjà beaucoup de vies sauvées, quoi.
Patricia Perret, Jean Bertin n'a pas eu de chance puisque son projet est mort-né, mais il n'en reste pas moins un grand ingénieur, un ingénieur de génie. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble une petite minute. Un jour, il est interrogé par Jacques Chancel, sur France Inter, bien sûr. C'était en octobre 1971.
Jean Bertin, vos titres sont nombreux, vos réalisations multiples. Je pourrais occuper 5 minutes d'antenne en m'attachant seulement à votre curriculum vitae. Vous êtes l'homme du fameux aérotrain. Et je me demande si plus que d'aujourd'hui, vous n'êtes pas de demain, c'est-à-dire terriblement en avance.
Vous venez en quelques mots de situer notre problème. Nous avons essayé de faire en sorte que la société industrielle évolue finalement pour un meilleur service de l'individu. Mais précisément si on veut qu'elle évolue, il faut être en avance. Et tout le problème est d'être suffisamment en avance, mais pas trop.
Ouais, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Alors, rideau sur l'aérotrain, puisqu'il n'a pas existé. Parlons du TGV. Nous avons maintenant les TGV nouvelle génération. Mais alors, là, on est plus sur des histoires de records de vitesse, hein, comme à l'époque. Les records se situent ailleurs, parce que c'est pas la même époque. Elle a d'autres priorités, notre époque.
Oui, alors les records en ce moment, c'est surtout des records de fréquentation. On n'a jamais eu autant de gens dans les TGV, en gros, que depuis la sortie du Covid, avec une très forte augmentation 2022-2023. Et même là, cette année, visiblement, c'est ce que disait le président de SNCF, on n'a jamais eu autant de monde. Donc l'objectif du nouveau TGV, vous l'avez dit, c'est pas du tout de casser des records de vitesse, mais c'est des TGV qui sont de plus en plus, comme on dit, capacitaires, c'est-à-dire avec le plus de monde possible à bord. On va passer au-delà, on va être à 1200 personnes par TGV, parce qu'on colle de rames, peut-être même plus. Voilà. Donc en tout cas, aujourd'hui, l'enjeu, c'est le plus de monde, déplacer le plus de monde à grande vitesse. Hein. On reste dans des vitesses très grandes.
Malgré les prix élevés.
Alors, malgré les prix, oui. Malgré les prix, parce qu'on entend souvent des critiques par rapport à ce prix, en disant, bon, bah, c'est trop coûteux, les gens vont s'en détourner. Et ce qui est paradoxal, c'est que les TGV ont jamais été aussi pleins. Donc visiblement, même à ce prix, on trouve des gens pour prendre le train. Mais là, attention, on parle bien des TGV, parce que votre sujet, c'est marrant, on parle de Paris-Orléans, et voilà, Paris-Orléans, il n'y a pas de TGV. Mmh. Aujourd'hui, c'est majoritairement du TER. Et c'est des billets qui sont beaucoup moins chers, et voilà, on en parle moins. Donc oui, le TGV est coûteux, mais oui, à ce prix-là, il trouve preneur parce qu'il est tellement compétitif par rapport à la voiture qu'en tout cas, une partie de la population continue à se le payer.
Alors, le développement du TGV a posé un vrai problème d'aménagement du territoire. Est-ce que la SNCF a rectifié le tir avec ces trains intercités ou ces anciens trains corail rénovés, notamment ceux qu'on prend en départ de la gare d'Austerlitz vers le centre de la France? Elle a rectifié le tir? On a rectifié le tir en termes d'aménagement du territoire?
Alors, première question, c'est-à-dire pourquoi ça serait la SNCF? Dans votre reportage, on le voit bien. bien, les premières lignes, c'est l'État qui doit décider. Et en fait, là, c'est exactement le même débat. Du coup, là, pour anecdote, moi, je suis en direct de Châteauroux, France Bleu Berry. Et en effet, est-ce que le tir a été rectifié? Bon, Paris-Orléans, Toulouse ou Paris-Clermont, vous pouvez demander au maire de Limoges ou de Clermont. Voilà, ils souffrent aujourd'hui. La desserte est vraiment mauvaise. Et notamment parce que l'infrastructure est en mauvais état, parce que l'argent est parti dans le TGV. Donc, est-ce que c'est rectifié? Bon, en tout cas, on en prend le chemin, mais ça va être assez douloureux, parce que, alors, on attend des nouvelles rames, qui s'appellent les rames oxygène, pour remplacer les vieux corails dont vous parliez, et également à faire des travaux sur les voies, et notamment la ligne Paris-Orléans, qui va être fermée 8 heures par jour à partir d'août prochain, pendant 6 mois, donc on pourra plus faire l'aller-retour à la journée à Orléans, parce qu'on aura pris tellement de retard que là, il faut fermer pour rattraper. Donc bon, si je veux voir le verre à moitié plein, je vais dire que les choses progressent, les rames vont arriver et les travaux vont être faits. Si je veux voir le verre à moitié vide, bah, aujourd'hui, les rames sur Paris, Clermont, par exemple, il y a vraiment énormément de problèmes. Et l'infrastructure, voilà, elle peine et on veut, les habitants de ces territoires dont je fais partie vont souffrir pour que ça aille mieux, quoi.
L'ouverture à la concurrence, voulue par l'Europe libérale, peut-elle conduire à avoir des trains d'un nouveau genre, dotés de nouvelles technologies ou de technologies différentes sur nos lignes, ou est-ce qu'on va rester assez longtemps sur la formule TGV ? Qui donne satisfaction, en tout cas, pour...
Voilà, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Il y a des concurrents aujourd'hui en France sur certaines lignes. Donc, pour les nommer, c'est Renfe, qui est un peu l'équivalent de la SNCF en Espagne, et Trenitalia, qui est à peu près l'équivalent de la SNCF cette fois en Italie. Ils proposent des offres qui sont tout à fait similaires au TGV en termes de vitesse, avec des rames un peu plus anciennes pour Renfe. Mais voilà, ils ne vont pas pouvoir innover. De toute façon, ils vont prendre l'infrastructure existante. La concurrence, ça va surtout concerner les grandes métropoles. Aujourd'hui, c'est surtout sur le Paris-Lyon, le Paris-Orléans, le Paris-Châteauroux. Il ne faut pas imaginer que les concurrents vont s'amuser à faire du TGV sur des lignes classiques et puis surtout desservir autre chose que des grandes métropoles auxquelles il y a du pouvoir d'achat pour faire des billets relativement chers. On en a parlé également.
Oui, alors puisqu'on est sur le terrain économique, le ferroutage, alors on dit un peu tout et son contraire, ça marche pas, ça marche, c'est pas développé, c'est développé, on en est où? Parce que c'est quand même une solution écologique pertinente, très pertinente même.
Alors là c'est vrai que c'est pour parler du transport de marchandises. Mm-hmm. Le ferroutage, ça permet de mettre des camions ou en tout cas des caisses sur le train. Bon, on en parle depuis longtemps, on peut pas dire que ça fonctionne pas, mais plutôt que ça décollerait pas aussi vite qu'on aurait pu espérer, parce que si on prend un peu de recul et qu'on regarde le fret ferroviaire dans son ensemble, on est aujourd'hui à 10% des marchandises en gros transportées par train, ce qui est assez faible, hein, même au niveau européen.
Ah oui, c'est faible.
Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver collectivement la solution pour relancer ce fret, qui ne passe pas sur grande vitesse, hein, qui n'a pas forcément besoin de technologies nouvelles, mais d'une infrastructure qui marche et qui fonctionne, ce serait déjà une bonne chose.
Merci infiniment, Patricia Paredes. Je rappelle que vous êtes économiste dans le secteur du transport ferroviaire pour le cabinet de conseil Transmission, et je remercie France Bleu à Châteauroux pour l'accueil qu'ils vous ont réservé. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Aérotrain, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Alex Olarewaju Otinois.